Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, ravi d'être avec vous après ce fou week-end de sport. Hein. On en reparlera dans la deuxième partie de cette émission. On reviendra naturellement dans notre page foot sur la victoire de Manchester City en Ligue des Champions. On aura une grosse page tennis avec El Hadji et puis Abou qui reviendront notamment sur la victoire de Djokovic et puis de Świątek, la polonaise. Et puis naturellement, on ira aussi prendre le pouls du côté des 24 heures du Mans avec un confrère qui a eu l'occasion, lui, d'assister à la victoire des Ferrari, donc 58 ans après leur retour. Et puis bah, ce soir, cette actualité, on va aussi l'accompagner avec notre invité. Il est exceptionnellement au téléphone, c'est Thomas Delpech, le directeur événement grand public chez ASO pour le prochain triathlon de Paris, hein, des 24 et 25 juin. Thomas, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Thomas, bon, exceptionnellement, hein, bloqué par un impératif de dernière minute, c'est ce qui vaut que vous êtes au téléphone ce soir. Hein.
Tout à fait, désolé de ne pas être avec vous, oui. Mais on va pouvoir quand même converser sans problème.
Très bien, alors comment êtes-vous comme ça 15 jours avant un tel rendez-vous qui va être un des grands événements sur la capitale?
Bon, écoute, on est serein, ouais. Pas de souci. on a livré un événement hier avec le 10 km Adidas et puis on va enchaîner. C'est la saison des événements grand public, hein, les événements en plein air. Mmh. Et le Garmin Triathlon de Paris se prépare bien. Mmh. Il n'y a pas de souci. On est toute l'équipe d'organisation est maintenant focus sur cette date-là. Et puis on peaufine l'organisation tout simplement parce qu'il y a toujours des petites choses à peaufiner, des choses encore à régler pour le jour J.
Alors justement, on va revenir sur l'organisation, mais auparavant, je voudrais qu'on parle un peu de vous. Vous êtes directeur événement grand public chez ASO. Depuis combien de temps ?
Ça fait longtemps que je suis chez ASO. Oui, ça oui. Fait plus de 20 ans que je suis chez ASO sur les événements grand public. Et puis le département grossit, et donc j'ai pris cette direction l'année dernière.
Mmh. Vous venez du monde du sport, je suppose ?
Oui, tout à fait. Je suis un sportif. Voilà, dans mon service, il y a essentiellement des gens passionnés par le sport, parce que notre travail, c'est de faire vivre les plus beaux événements à des sportifs qui ont envie de rêver, de s'émerveiller, d'avoir du frisson. Donc on est passionnés par cet effort-là et on essaie de mettre tout en œuvre pour que les personnes passent un super moment quand elles viennent nous rejoindre.
Vous avez combien de personnes qui travaillent à vos côtés, Thomas ? Parce que bon, c'est vrai qu'à ASO, on connaît un peu, nous, hein, on a l'occasion de les rencontrer, notamment sur les routes du Tour de France. Combien de personnes travaillent au sein de votre équipe ?
Sur les événements, ça va crescendo en fait, parce qu'un an à l'avance, on fixe les dates, on commence à voir les grands schémas d'organisation, et donc là, on est très peu nombreux sur le dossier. Mmh. Et puis au fil du temps, il y a des personnes qui, quand elles ont livré un autre événement, viennent nous rejoindre pour qu'on puisse monter en charge, pour qu'on puisse monter en puissance sur les événements. Et donc, des personnes qui gèrent la logistique, des personnes qui gèrent les aspects commerciaux, des personnes qui gèrent les aspects environnementaux, etc., les médias. Et on se retrouve à la fin avec une équipe de 30-40 personnes sur l'événement pour gérer tous les métiers d'organisation de l'événement.
D'accord. Est-ce qu'on se spécialise, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une équipe qui travaille essentiellement sur le marathon de Paris ou les semi-marathons, l'autre sur les triathlons, l'autre qui s'occupe que des grandes courses cyclistes, les autres du golf, ou alors est-ce que ça peut être interchangeable?
Non, ça peut être interchangeable, parce qu'on peut changer de spécialité, on peut changer de carrière, et puis c'est quand même de plus en plus fréquent dans nos vies à tous de changer d'orientation et de carrière. Mais globalement, oui, on se spécialise. Nous, chez ASO, une équipe qui est spécialisée sur le cyclisme professionnel, donc qui va accompagner le Tour de France et toutes les grandes classiques, une équipe qui est dédiée au sport mécanique, et puis nous, sur les épreuves qu'on appelle les épreuves grand public, les épreuves qui sont ouvertes aux amateurs, où on a une particularité, c'est-à-dire qu'il y a des athlètes élites sur nos courses, mais ce n'est pas une majorité. La majorité, ce sont des amateurs qui sont ou de très bons amateurs très entraînés ou des gens même qui débutent sur ces sports-là, qu'il va falloir mixer dans un week-end ou une compétition. Et puis, il faut réussir à mettre en œuvre une épreuve pour qu'elle satisfasse à la fois les gens très entraînés qui viennent chercher de la performance et à la fois des gens qui débutent et qui viennent chercher leurs premières émotions, leurs premières découvertes de ces sports-là. Voilà, et même à la fois au niveau des épreuves grand public, on se dispatche encore pour que certains s'occupent plus de la course à pied, plus du vélo ou du triathlon, voilà, du VTT, pour qu'on puisse livrer les événements, puisque effectivement c'est difficile pour la même équipe de livrer deux événements à une semaine d'intervalle. Donc là, j'ai une équipe qui était sur la course à pied qui gérait l'épreuve de ce week-end, et dans 15 jours, c'en est une autre qui gère le triathlon.
D'accord. Et vous avez à travailler entre vous, parfois, à vous voir dans une année ?
Ah oui, bien sûr. On passe l'essentiel du temps au bureau ensemble pour partager les idées, pour partager les nouveautés, les améliorations, partager les chantiers, parce qu'on a toujours des chantiers d'amélioration sur nos épreuves. Donc on fonctionne bien sûr ensemble, on réfléchit mieux à plusieurs. Et voilà, et comme ça permet de ramener les bonnes idées de la course à pied sur le vélo, les bonnes idées du triathlon sur la course à pied, et d'échanger les pratiques. Et puis les territoires se ressemblent et les sports se ressemblent quand même fortement. Donc d'essayer de maximiser nos apports et nos améliorations.
Oui, parce que pour le grand public, on va dire, vous organisez énormément d'événements sportifs et sur des sports très différents. Il y a le golf, il y a la voile, il y a une multitude de sports chez ASO.
Oui, voilà, il y a une multitude de sports chez ASO, mais nous, on n'est pas grand public, on a des épreuves quand même relativement proches sur la pratique. Que l'on fasse de la natation, du triathlon, du vélo, de la course à pied, du VTT, on est très très proche et on cherche un peu le même sens en fait à notre pratique sportive. Donc voilà, ça on va le retrouver, qu'on soit au départ du triathlon à Paris, qu'on soit sur l'étape du tour amateur dans les Alpes 15 jours après, on retrouve la même chose à faire vivre en fait.
Ouais, c'est ça, c'est la question que j'allais poser. Vous allez intervenir sur la grande étape du Tour de France, ouverte chaque année aux amateurs. Et qui fonctionne très bien, une institution maintenant.
Sur le vélo, c'est ça. Sur le vélo, on fait vivre les épreuves professionnelles quelques jours avant aux amateurs. Ils vont pouvoir aller faire les pavés de Paris-Roubaix le samedi avant les professionnels. Ils vont pouvoir aller faire cette étape du tour là entre Annemasse et Morzine 5 jours avant les professionnels. Et donc voilà, c'est l'identique à un marathon à Paris où on va suivre les professionnels, puisque les Kenyans et Éthiopiens sont devant. Et on va les suivre, on va vivre la même course qu'eux, on va être dans la même dynamique que des coureurs qui sont hyper entraînés, hyper performants, mais on va vivre sa course individuelle ou entre amis, entre collègues, et vivre la même passion du sport, qu'elle ce soit pour le bien-être, pour de la performance, pour tout simplement de l'amusement ou du loisir. Voilà, on partage tout ça. Et nous, on le partage aussi. L'équipe d'organisation le partage tout autant dans notre travail.
Oui, et puis Thomas, ça répond à un énorme besoin actuellement.
Oui, clairement, le sport fait du bien, mais comme la culture fait du bien aujourd'hui, et c'est des apports indispensables pour une société. Voilà, clairement, une société ne peut pas faire que travailler, produire et dormir et manger. Il faut des loisirs, et les premiers loisirs, c'est bien évidemment la culture et le sport.
Alors, pour le triathlon donc 2023, il y aura quelques innovations, quelques nouveautés. Alors, on va rappeler, mais ça, on va en parler, que c'est sur 2 jours, hein.
Oui, c'est sur 2 jours. On a voulu passer sur 2 jours pour avoir plus de confort, pour distinguer les distances et pouvoir accueillir plus de monde, tout simplement. Donc, on accueille plus de monde. On est réparti sur le samedi matin et le dimanche matin. La distance courte aura lieu le samedi matin et la distance M, la distance olympique, une distance moyenne en triathlon, aura lieu dimanche matin. Voilà. Oui. Et la plus grosse nouveauté, effectivement, en dehors de ce timing des événements, la plus grosse nouveauté, c'est qu'on a inclus du duathlon dans l'événement. Parce que le triathlon, pour ceux qui ne savent pas, est composé de natation, puis vélo, puis course à pied. Et le duathlon permet de faire course à pied, vélo, course à pied, pour les personnes qui sont moins à l'aise dans l'eau, qui sont pas encore des gros nageurs, et qui veulent tester cet enchaînement de disciplines. Parce que ce qui est rigolo, ce qui peut être du loisir, et ce qui est après une recherche de performance dans ces disciplines-là, c'est de pouvoir enchaîner 3 types d'efforts différents et d'avoir une période de transition, on fait ça dans le parc de transition, le parc vélo, un changement de tenue pour une partie de la tenue et un changement de pratique. Donc voilà, c'est une discipline qui est à la fois marrante à faire, parce que c'est assez rigolo de se donner des objectifs comme ça sur cette transition, et qui peut pousser à une triple performance en fait. Si on est un peu moins fort dans une discipline, on va pouvoir équilibrer ça un peu dans les autres.
Oui, parce que souvent dans le triathlon, les triathlètes le disent souvent, le plus difficile pour eux, c'est la natation. C'est un sport très technique et c'est souvent le point faible.
Oui, alors sauf les triathlètes qui viennent de la natation, bien évidemment, qui sont un peu plus à l'aise sur le début de course et qui ont plus qu'à s'entraîner et à progresser sur la course à pied et le vélo. En fait, nous, on s'aperçoit que sur Paris, là, sur le Garmin Triathlon de Paris, on a essentiellement des gens qui viennent de la course à pied.
Et c'est
quand même le sport le plus pratiqué, notamment en milieu urbain, parce que en milieu urbain, c'est un peu moins facile de faire du vélo de compétition. Et on n'a pas des plans d'eau, on n'est pas au bord de la mer, on n'a pas des plans d'eau libres, donc on a un peu moins de nageurs en eau libre. Donc on a essentiellement, en majorité en tout cas, des gens qui viennent de la course à pied, qui pour la plupart savent faire du vélo, ou ont déjà fait du vélo, et même des fois en compétition. Mais par contre, effectivement, la natation représente peut-être un frein un peu plus important. Donc on s'est dit, le duathlon va pouvoir leur ouvrir la porte à ce triathlon, tout simplement. Et peut-être que l'année prochaine, ils auront le temps d'aller un peu plus en piscine, de s'entraîner un petit peu plus sur la natation, et ils pourront faire le triathlon classique, le triathlon tout simplement M ou S, mais en version classique.
Alors justement, on va les décortiquer, ces triathlons. Donc triathlon S, ça c'est celui du 24 juin, donc du samedi 24 juin, individuel ou relais. Donc il y aura 550 mètres de natation, 21 km de vélo et 6 km de course à pied, c'est ça?
Tout à fait, oui. On a même sur ce format S, vous voyez, par rapport au standard, réduit un petit peu la natation pour qu'elle soit vraiment, vraiment courte. Mais c'est un format S qui se prête à tout le monde. Tout le monde peut aller faire un format S en étant un petit peu entraîné et en bonne forme. Et puis, c'est une première, c'est un format d'initiation.
D'accord.
Donc, on invite les gens, les inscriptions sont encore ouvertes.
On peut s'inscrire jusqu'à quand?
On peut s'inscrire jusqu'au week-end de l'épreuve. Donc il fait beau sur Paris, on a commencé à sortir un peu plus à pied, en vélo, on a pu nager un peu plus. On peut prendre maintenant la décision de s'inscrire si on l'a pas encore fait, et tous les formats sont encore ouverts. Si vous hésitez et que vous êtes une bande de copains, peut-être qu'on peut le faire en relais. Le relais permet de se soutenir un petit peu plus, et puis s'il y a une défaillance dans une discipline, on se dit que c'est le copain qui va faire le vélo parce qu'on n'a pas de vélo ou parce qu'on est moins entraîné sur cette discipline-là. Donc voilà. Mais le format S... Sprint, c'est S comme sprint, est ouvert à tous. Donc c'est une bonne porte d'entrée sur cette discipline qui est le triathlon.
Ouais, et puis pour le duathlon, c'est 5 km 2 en course à pied, 21 km de vélo et 6 km de course à pied, c'est ça?
Voilà, tout à fait. Oui. On teste quand même l'enchaînement des disciplines, mais on ne va pas dans l'eau. Mm-hmm. Et donc voilà, on a un double choix qui peut se faire. Donc ça, c'est le samedi matin. Et puis le dimanche matin, c'est le format M, le format moyen, le format olympique. Celui qui sera disputé sur les Jeux Olympiques à Paris en 2024.
Donc pour le samedi, donc vous l'avez dit, on peut s'inscrire jusqu'à la veille du 24 juin. Il y a un prix d'engagement. Il faut être obligatoirement licencié, ou alors je sais pas moi, on peut faire du tennis, on peut faire du foot et puis s'inscrire à ce triathlon.
Oui, c'est ouvert à tous, comme sur le marathon, comme sur les autres courses. On peut être licencié, bien sûr, parce que certains sont dans des clubs, certains ont pris le parti d'aller chercher un entraîneur, d'aller chercher de l'encadrement, et c'est très très bien de se rapprocher des clubs. Maintenant, si on est sportif et qu'on fait un autre sport et qu'on est en forme, la seule barrière à l'entrée, c'est un certificat médical.
Voilà, ça c'est obligatoire.
D'une aptitude au triathlon, comme on peut avoir l'aptitude à la course à pied pour le marathon, oui, c'est obligatoire. Dans toutes les disciplines en France, c'est obligatoire. Donc, c'est ou licence ou certificat médical. Mais voilà, si on est déjà entraîné et qu'on a fait tout ça, on peut même déjà avoir fait son certificat médical pour l'année complète sur un ou deux sports. Donc, n'hésitez pas si vous avez déjà ce formulaire, tout simplement. Oui. Donc, voilà, la seule porte à l'entrée, c'est ce certificat médical, tout simplement.
Et le prix de l'engagement?
Et le prix d'engagement, il évolue. Donc, plus on s'inscrit vite, moins c'est cher. Et sur le format S, on va être à 89 euros. Là.
D'accord.
Sur les derniers jours, on va être à 89 euros et après 95, donc dépêchez-vous.
Et par équipe, ce sont des équipes de combien?
C'est des équipes d'équipe de 3.
D'accord. Mais,
après, toutes les combinaisons sont un peu possibles.
Oui, ça peut être mixte.
Si on s'est inscrit en 3 et puis finalement... il en manque un jour J ou que le copain n'a pas pu venir, y en a un qui peut faire la natation et le deuxième pourra faire les deux autres épreuves. En tout cas, il faut le relais, c'est tout simplement plus qu'une personne qui se partage les trois épreuves. Mmh. Et on sait très bien que des fois, il y en a un des trois qui est absent, qui est malade, mais ça n'empêche pas le relais de fonctionner.
Alors, un départ à 7h pour le triathlon et à 7h15 pour le duathlon, parce que naturellement, on va bloquer certains endroits de Paris, donc il faut pouvoir libérer très tôt la circulation.
Oui, voilà, ça nous oblige un peu à ça. On a quand même des obligations, on est dans un milieu urbain, on doit nager pas trop tard, parce qu'après, il y a de la circulation fluviale sur le bassin de la Villette, tout simplement. Et ensuite, c'est le vélo qui est le plus pénalisant pour circulation automobile. Donc, dans nos accords avec la préfecture et avec la ville pour mettre la ville à disposition des triathlètes, on a des limites d'heure, bien sûr. Donc, voilà, ça part tôt le matin. C'est aussi plus agréable l'été que ça part tôt le matin, puisqu'on peut être sur des environnements un petit peu chaleureux. Hein. Il peut y avoir de la bonne météo, de la bonne température. Donc, on préfère partir tôt le matin. Et comme ça, on fait l'épreuve pas sous un soleil trop écrasant. C'est quand même plus facile. Ouais. Mais voilà, mais on a un super parcours vélo. Hein. On s'élance dans Paris en route fermée avec un parcours vélo qui nous fait découvrir le cœur de la capitale. Et ça, c'est pas tous les jours. Donc profitons-en.
Alors justement, donc on part de la Villette, c'est ça?
Oui, on part de la Villette.
C'est le canal de Lourcq. Oui, donc on va nager au canal de Lourcq.
Canal de la Villette et canal de Lourcq. Là, on est vraiment sur la jonction des deux canaux. Tout le point névralgique de l'événement, le village, le retrait des dossards, le parc de transition, tout ceci se fait sur les pelouses de la Villette, dans un lieu plutôt très agréable, puisqu'on a vraiment la place pour les familles, pour pique-niquer autour. On est dans un lieu très vert, donc effectivement, on parlait de chaleur, quand il fait chaud, on est mieux dans un lieu très arboré et très végétal, on souffre moins. Et puis ensuite, la natation se fait bien sûr dans le canal, le vélo va aller dans le cœur de Paris pour faire les 21 km du format S, donc jusqu'à la place de la Concorde, en passant par Bastille.
C'est-à-dire que quand on sort du canal de Lourcq, où est-ce qu'on récupère les vélos?
Ils sont, on sort sur le... Les départs sont un petit peu éloignés pour que l'arrivée et la sortie de l'eau soient en face, en face du parc de transition, donc sur les pelouses. On récupère son vélo, donc là on s'équipe, on met le casque à la place la place de la combinaison de natation, tout simplement. Et puis on file dans le cœur de Paris et retour vélo. Ensuite, on repasse au parc de transition pour poser le vélo. On met les chaussures de course à pied et on repart pour la distance qui est faite en course à pied en fonction des formats. Donc là, ce sera 6 km sur le deuxième tour du format S. On repart sur les rives du canal de Lourcq. Les rives du canal de Lourcq qui sont aussi très agréables. Hein, c'est des zones piétonnes. Et là, ce qui est agréable sur ce Garmin Triathlon de Paris, c'est que le public qui vous a soutenu, vos accompagnants, vos copains, votre famille, qui vous a soutenu sur la natation, parce qu'ils étaient au bord du canal, ils vont vous voir passer de nouveau au départ du vélo, à l'arrivée du vélo, ils vont vous voir passer de nouveau sur la course à pied. Donc le fait d'avoir tout réuni dans cet espace du parc de la Villette qui est plutôt plaisant, ça permet d'avoir un public à côté de nous sur toutes les transitions, tous les départs de format et tous les retours et puis la zone arrivée. Donc c'est très chaleureux, on a vraiment beaucoup, beaucoup de monde dans cette zone.
Oui, alors faites-nous un peu rêver. Donc ensuite, les cyclistes, ils passent devant, vous l'avez dit, les plus beaux monuments de la capitale.
Oui, on va chercher le cœur de la capitale, c'est superbe. On descend le long du canal au maximum, parce que le canal continue dans Paris, il va finalement se jeter dans la Seine, sur le port de l'Arsenal. Donc on suit ce canal jusqu'à la place de la Bastille. Oui. Et ensuite, on prend les berges, donc on passera par les berges basses à l'aller et haute au retour. Et puis, on remonte en parallèle de ce qu'on a descendu, on va remonter jusqu'à la Villette. Donc voilà, insertion de nouveau sur la Villette, et puis là, on change de sport de nouveau. Donc, nouvelle aventure, changement de sport, et puis on repasse sur la course à pied. Et à la sortie de l'eau, du coup, ceux qui ont fait la natation vont retrouver ceux qui ont fait le duathlon et qui ont fini la course à pied. Donc les deux groupes sont dans le même timing pour le vélo et pour la dernière partie de course à pied.
Entre nous, Thomas, on a le temps d'apprécier un petit peu l'environnement. On a le temps, malgré l'effort, on a le temps de regarder un peu autour de soi, ce beau patrimoine notamment.
Sur le vélo, on peut lever la tête. Oui. Alors, il y a pas mal de lignes droites sur ce parcours. On n'est pas sans cesse à tourner à gauche et à droite. Donc on peut lever la tête, on va aller rouler dans Paris sur des axes qui sont pas forcément des pistes cyclables, donc c'est des axes qu'on connaît un peu moins pour ceux qui font du vélo dans Paris. Puis quand on est sur les berges de Seine, on a une visibilité assez importante sur l'autre rive, sur l'île, et jusqu'à la Concorde. Donc Concorde, on fait demi-tour, mais en vélo, à part quand on est sur les zones un petit peu sinueuses où on doit prendre des virages, où il faut être très attentif, le reste du temps on peut lever la tête, donc c'est agréable.
Les premiers, les meilleurs devraient arriver en combien de temps sur cette épreuve? du 24 juin.
Sur le format S, ils vont assez vite. Hein. Ils vont très très vite en natation. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, les 500 mètres en natation, ils vont les faire en quelques minutes. Voilà, quelques minutes. Alors que les derniers vont avoir un petit peu plus de temps devant eux. On leur laisse quand même du temps. Les standards hein, sur un format, par exemple le format S, on va être sur les derniers, on va leur permettre une arrivée à 11h, vous voyez.
D'accord.
Ils vont prendre leur temps.
D'accord, oui.
Ils vont prendre leur temps, on va leur permettre de nager tranquillement pour éviter la bousculade. On va leur permettre de laisser les autres partir devant qui sont un peu meilleurs en termes de performance. Sur le vélo, ils vont pouvoir rouler à une moyenne très raisonnable aux alentours de 20 et quelques kilomètres heure. On leur demande pas d'être des champions à 35 kilomètres heure. Donc ça, c'est quand même important. Et après, sur la course à pied, c'est pareil, c'est le dernier effort, mais on est sur les berges du canal et ils vont pouvoir être tranquillement. Hein, c'est pour les derniers notamment, c'est ça dont il faut parler. On les laisse aller sans problème à 8 ou 9 kilomètres heure. Donc on leur met pas la pression pour qu'ils arrivent trop tôt.
Et puis naturellement, le lendemain, donc vous l'avez dit, le triathlon M. Alors là, toujours en individuel ou en relais, 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 11 km de course à pied. Et pour le duathlon M, c'est 5,2 de course à pied, 40 km de vélo et 11 km de course à pied.
Tout à fait.
Ouais, donc là, c'est le stade au-dessus, dirons-nous.
C'est le double en distance. Quasiment le double en distance, mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est infaisable. Au contraire, ça reste un format raisonnable. Alors, il faut être un peu plus entraîné. Mmh. Il faut avoir eu déjà des expériences de sport d'endurance dans une des trois disciplines. Hein. Il faut avoir poussé un peu les distances sur ces distances-là. Mais globalement, un effort tout à fait faisable si on fait de la course à pied régulièrement, si on fait du vélo régulièrement ou de la natation régulièrement. On a travaillé un petit peu les autres disciplines, comme ça, un peu l'entraînement ou en préparation croisée. Hein. Vous savez que les gens qui font de la course à pied, on leur conseille hein, de ne pas faire en préparation de compétition que de la course à pied. Mmh. Il faut mixer les sports pour éviter d'user nos articulations favorites et d'avoir des tendinites ou des choses comme ça. Donc, il faut mixer les sports, mais ça reste très faisable. Donc là, effectivement, en horaire, bah, on ne va pas être en une heure pour les premiers et en 2h30, 3h pour les derniers. On va être un peu plus long. Les premiers vont mettre 1h45 à peu près hein, pour donner un ordre d'idée, et les derniers en presque 4h.
Oui, bien sûr.
Donc, mais c'est un effort tout à fait faisable. Et là, donc du coup, on sera sur les mêmes emplacements. Les pratiquants du samedi laissent leur place aux pratiquants du dimanche, donc dans le parc de transition, sur le site de la Villette et sur le village. Et la seule grosse différence, c'est les distances. Donc, c'est la distance du parcours de course à pied, la distance du parcours de natation. Et puis, en vélo, donc on va aller un peu plus loin dans Paris.
Oui.
On va aller effectivement chercher le Bois de Boulogne en vélo.
Eh oui.
Donc, on va passer par le même parcours qui suit le canal. On va passer à Bastille, on va prendre les berges. Et puis, de ces berges, on va aller chercher, par deux chemins différents, à l'aller et retour, chercher une boucle dans le Bois de Boulogne. Et donc, on va passer par les endroits très, très monumentaux aussi de l'Ouest parisien, avec l'avenue Foch, avec une visibilité énorme sur l'Arc de Triomphe, avec un 16e arrondissement sur lequel on redescend au niveau de Trocadéro, qui sont très impressionnants.
Oui, oui. Sinon, les horaires, c'est les mêmes. Hein. Les horaires de départ, c'est les mêmes. 7h et 7h30.
Tout à fait. Ouais. Et là, on va finir vers midi, midi et quart, les épreuves, alors que la veille, on a fini à 11h.
Oui. Voilà, et sinon, les engagements, c'est pareil, c'est le même prix, c'est la même somme, ce sont les mêmes conditions.
Oui, c'est un petit peu plus cher sur le format olympique. En fait, nous, on a des contraintes. Hein. C'est vrai que le prix d'organisation, on en parle beaucoup. Organiser un triathlon à Paris, c'est plus compliqué que de l'organiser soit en bord de mer ou peut-être près d'un lac. C'est-à-dire qu'on a des contraintes de sécurité beaucoup plus importantes sur Paris, notamment sur le parcours vélo. C'est vrai que fermer la circulation dans Paris pour un parcours vélo de 40 km, c'est une grosse, grosse organisation. Mmh. Beaucoup plus de sécurisation, beaucoup plus de choses. Et c'est évident que ça coûte plus cher à l'organisateur. Donc voilà, gérer trois disciplines dans trois terrains de jeu comme ça, ça nous oblige à des dispositifs qui sont énormes. Donc on a souvent tendance à dire que le triathlon est un peu plus cher que que le vélo ou que la course à pied, mais pour l'organisateur, c'est plus cher, c'est évident. Mmh. C'est plus cher de faire tout ça, de bloquer un bassin, de mettre des infrastructures dans un bassin avec des escaliers, de sortie d'eau, de voilà, et dans un cadre de sécurité que l'on veut parfait.
Oui, parce que voilà, c'est ça. Le risque, le problème, c'est ça. Hein. Je suppose que bon, vous dormez bien quand même la veille d'une telle épreuve, vous êtes bien rodé, mais le plus gros problème, c'est ce problème de la sécurité. Ça, c'est tous les organisateurs qui le disent, hein, naturellement.
Tout à fait. Nous, l'objectif, c'est que le participant soit focus sur sa performance ou sur son le bon moment qui va passer. Et pour qu'on fasse ça sans qu'il s'aperçoive de rien, entre guillemets, on va nous tout préparer dans les coulisses, c'est-à-dire bloquer ce parcours vélo à la circulation, garantir qu'il y a assez de sauveteurs, assez d'assistants sur le parcours en natation pour qu'on puisse surveiller tout le monde. Et puis ensuite prendre soin des coureurs qui sont dans un effort un peu final, la troisième partie, et physiologiquement des fois ils peuvent être un peu moins bien. Mmh. Ça nous oblige sur un périmètre hyper large entre le vélo qui part dans le bois de Boulogne, la course à pied qui part le long du canal de Lourdes, et puis la natation qui est un peu toujours une petite difficulté, puisqu'il faut mettre les gens sur des bateaux, sur des embarcations, des kayaks pour les surveiller, tout ça. Ça nous oblige à une logistique énorme. Voilà, donc nous on doit faire tout ça pour que le coureur passe le moment le plus merveilleux possible. Voilà, donc c'est évident que un triathlon coûte plus cher à produire, coûte plus cher à organiser, et donc il est proposé effectivement à un prix plus élevé que une course sur une seule discipline.
Voilà. Et là aussi,
on est sur un tarif qui va être à 130 euros là sur les dernières périodes d'inscription. Mais voilà, c'est le prix pour avoir une organisation qui prenne soin de tout le monde et qui soit bien bien carré en termes de sécurisation et puis d'expérience pour le participant.
Oui, et puis là aussi, naturellement, on attend combien de participants? Le même nombre que la veille?
Le même nombre que la veille? Non, il y a un peu plus de monde sur le format olympique que sur le format sprint.
D'accord.
Et globalement, voilà, on va être sur entre 5500 et 6000 participants, ah oui, oui. et 40% à peu près sur le samedi.
D'accord. Il y a un chiffre limite qu'on s'est donné où on pourrait refuser du monde éventuellement?
On pourrait refuser du monde, oui. Nous, là, pour l'instant, on s'est préparé à accueillir. On a une structure qui permet d'accueillir entre 5000 et 7000 personnes, parce qu'on prépare un parc de transition avec des emplacements pour les vélos. Vous savez, hein, le vélo numéro 33 à son emplacement, le vélo 432 à son emplacement. Donc, il faut préparer tout ça. C'est une grosse logistique et une grosse structure pour pouvoir prendre ces vélos en sécurité et aussi pour le confort du coureur. Le participant, il faut qu'il ait son petit mètre carré autour de son vélo pour laisser ses affaires et se changer. Et voilà, on est dimensionné, nous, actuellement, sur cette épreuve parisienne pour entre 5000 et 7000 participants. Donc, c'est la jauge qu'on atteint à peu près en ce moment. Et là, si on veut grossir, après, comme toutes les épreuves, on se pose des questions. Comment on pourrait grossir? Comment on pourrait attirer plus de monde? Maintenant qu'on a ouvert le duathlon, on va attendre un petit peu plus de monde sur cette épreuve. Et puis, il faudra que le site s'adapte. Il faudra que notre organisation s'adapte. C'est aussi pour ça qu'on est passé sur 2 jours. Passer sur 2 jours, ça veut dire accueillir plus de monde, mais garder du confort pour les participants.
Oui.
On ne veut pas tasser tout le monde même journée, le même créneau horaire, etc. Voilà.
On va vous laisser souffler un peu. On écoute une petite, un peu de musique. Un sportif, Yannick Noah, Saga Africa. Et puis, on reparle justement de ce triathlon du 24 juin et du 25 juin dans quelques minutes. Vous restez avec nous. Vous ne quittez pas.
À tout de suite.
De la brousse, Saga Suppositoire de l'attaque adverse. Dégagement multidirectionnel d'un chrono. Les défenseurs voient complètement flash. François Omambi, Amoti, église insolent. Dieu solent et lance Mila. Au bombe de Mila, dribble là-bas. Un dribble sorti du doigt de laboratoire footballistique des Toudis. L'affaire est grave. Il tire au goal. Il y est.
Voilà, toujours avec Thomas Delpech, le directeur de l'événement grand public chez ASO. Thomas, c'est vrai que cette date de fin juin, elle est finalement bien choisie. Hein.
Elle est bien, elle est confortable, ouais. pour l'organisation, bien, ouais, sûr, mais surtout pour les participants, parce qu'ils ont pu, après la fin de l'hiver, avoir un petit peu de temps pour courir un peu plus et s'entraîner, faire du vélo. Mm-hmm. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de monde qui est un peu plus refroidi à l'idée de s'entraîner l'hiver, ouais, sur certains, sûr, sports. Mm-hmm. Donc voilà, il faut quelques mois de préparation quand même pour des fois se lancer sur une épreuve, donc autant qu'il y ait un peu de temps. Donc oui, c'est pour ça que la plupart des triathlons sont sur la période estivale, bien sûr.
Non, puis en plus, il y a un côté symbolique. On sait que le 23 juin, c'est la grande journée olympique. Et bien, juste dans la foulée, il va y avoir cet immense événement sur Paris.
Oui, c'est bien. Il y a de l'enchaînement sur Paris, ouais, en ce, ouais, moment. Il y a beaucoup, sûr, de choses. Donc, il y a bien sûr des journées olympiques qui se succèdent, ouais, là pour commencer à faire monter la pression mm-hmm. pour l'année prochaine. Et puis, il y a beaucoup d'organisateurs qui organisent de belles épreuves. Donc, voilà, mm-hmm. On a œuvré ce week-end sur de la course à pied. On fera le triathlon dans 15 jours. Et puis, il y en a d'autres. Donc, on peut vivre à Paris pas mal d'émotions sur les événements qui sont proposés. Et c'est la bonne période pour le faire, puisqu'on a une belle météo avec nous.
Oui, et puis c'est pas aussi finalement un dernier repérage pour l'épreuve triathlon qu'il y aura pour les Jeux Olympiques dans un peu plus d'un an.
Ah bah c'est un premier repérage parce, oui, qu'il va y en avoir d'autres. Hein, il y a un test event olympique, oui, qui va se dérouler cet été au mois, oui, d'août sur le parcours des Jeux Olympiques ce coup-ci. Mm-hmm. Et puis mais c'est vrai que certains peuvent être tentés, on le voit sur nos épreuves. Il y a certains qui viennent faire un peu plus de sport à Paris parce que Paris sera terrain des Jeux, donc ça motive un petit peu les gens. Voilà. Il y en a peut-être que ça effraie un peu d'avoir les Jeux Olympiques qui arrivent, parce que ça va chambouler un peu de choses dans la ville, mais il y en a aussi que ça motive, et tant mieux, si ça pousse les gens au sport, si ça les fait venir vers les activités sportives, qui sont plus en forme et qu'ils ont plus la pêche et le sourire, tant mieux, ce serait une très très bonne chose déjà.
Oui, parce que vous parliez de cette épreuve qui doit grandir, hein, ce triathlon de Paris. Il a eu des difficultés dans le passé. Hein. Il n'a pas toujours pu se dérouler comme il le fallait et il y a eu certaines dates d'annulation.
Oui, nous, on s'en occupait depuis 3 ans, mais c'est vrai qu'il a connu des moments difficiles. Il a été installé au cœur de Paris et puis après, il a été... Euh, Bah, il a été demandé aux organisateurs de sortir de Paris. Oui. Donc, quand on s'appelle le triathlon de Paris et qu'on a lieu après à 20 km en Ile-de-France, c'est plus très cohérent. Donc, heureusement, on a pu revenir dans la capitale, ce qui nous permet de proposer des beaux parcours, de proposer un accès aussi en transport qui est facilité. Hein. On peut, on peut se rapprocher un peu plus facilement en transport. Sinon, bah, quand on quitte quand on quitte Paris pour aller sur une base de loisirs, il y a pas le métro, il y a pas le RER, il y a pas tout ça, donc ça oblige tout le monde à y aller en voiture. Pas beaucoup de covoiturage, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Là, sur le site de la Villette, c'est central, donc beaucoup viennent tout simplement sur le triathlon avec leur vélo et en vélo. C'est quand même le plus agréable et le plus adapté. Et c'est vrai que voilà, on essaie de retrouver pour ce triathlon de Paris. Avec tous nos partenaires. Alors, on a des partenaires, bien sûr, comme Garmin, qui sont très importants pour l'épreuve, parce qu'ils s'adressent aux sportifs et leur proposent des beaux produits. Mais nos partenaires de l'installation de l'événement, c'est aussi la ville, la préfecture, tous ceux qui nous entourent dans la construction de l'événement. Et on essaye avec eux de pérenniser ce triathlon au cœur de la capitale, de montrer ce qu'il y a de mieux en prenant des beaux parcours, afin que le sport parisien soit crédible, bien représenté et attirant pour les gens, oui.
Oui. Et après, vous l'avez dit, donc ça sera effectivement, en plus de pérenniser cette épreuve, à cette date-là, de la faire grandir.
Voilà, de la faire grandir, d'éviter qu'il y ait ce frein pour les gens de dire triathlon, là, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Nous, on a envie de leur faire goûter. Ils font un ou deux sports, mais ces sports-là, ils les connaissent, ils les ont pratiqués. Et c'est d'arriver à les convaincre qu'un triathlon, c'est pas plus compliqué. C'est juste un jeu supplémentaire à enchaîner les distances, à enchaîner les sports et à faire une transition à la fois physique entre ces sports, parce que c'est pas simple, hein, on se relève de l'eau et puis il faut se mettre à pédaler, on revient de pédaler et il faut se mettre à courir. Donc physiologiquement, c'est une vraie adaptation, mais c'est aussi un vrai jeu, c'est un vrai challenge. On se lance à faire des choses un peu différentes. Et donc nous, on veut tout simplement expliquer aux sportifs que il faut le tester pour le vivre et très simplement on devient après un peu accro à ça. Bien sûr qu'on va aller courir, bien sûr qu'on va continuer à faire les événements de course à pied, de vélo, de l'entraînement où on fera qu'une seule discipline par jour, mais de temps en temps aller croiser ces trois disciplines, ça permet d'aller faire des triathlons sympas, ça permet de partager aussi avec des personnes qui ont pas le même niveau que vous dans une discipline mais qui se rattrapent dans une autre. Donc voilà, le triathlon est attirant et des fois les personnes qui ne le connaissent pas se mettent un frein à la pratique du triathlon et je pense qu'il faut vraiment, lever ce frein et tester. Ouais, il faut se lancer sur un triathlon pour voir ce que c'est et rapidement on prend du plaisir.
Et puis il y aura une particularité aussi pour ce triathlon, c'est que ça sera un triathlon solidaire. Hein. On pourra aussi courir pour une bonne cause.
Oui, c'est les choses qu'on essaie de mettre en place effectivement. En plus de l'épreuve, parce que tout le monde a sa motivation. Y en a qui viennent pour la performance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y en a qui viennent en groupe pour l'aspect convivial. Et puis, y en a qui ont envie de courir pour une bonne cause, de mettre son effort physique ou l'inscription de ses copains en relation avec une bonne cause. Donc, de plus en plus sur nos épreuves, on essaie de sensibiliser à ces causes-là et de dire, si vous voulez courir pour une association, si vous voulez courir en faisant un don à un acteur solidaire qui va recycler vos chaussures, qui va recycler vos textiles, qui va permettre à d'autres de faire du sport, faites-le. Donc ça prend différentes formes, que ce soit sur le triathlon ou sur d'autres épreuves. Voilà, on a des dossards solidaires qui se vendent, c'est-à-dire qu'on collecte des fonds pour l'association et c'est notre entourage qui va donner 10 euros. Et puis ça permet à l'association de fonctionner et nous, ça nous permet de faire l'épreuve sportive en ayant sur notre t-shirt des fois le nom de la sauce ou même des fois l'enfant, l'adulte qu'on aide par cette action. Et ça nous dit, ça nous permet de pas trop lever le pied quand ça va un peu moins bien, de se dire, je le fais pas que pour moi, je le fais pour une bonne cause aussi. Donc je vais me pousser un peu dans l'effort, je vais me donner un peu plus à l'entraînement et je serai performant le jour J.
Est-ce que des triathlètes handicapés vont participer aussi à ces deux jours de compétition?
Oui. On leur permet de le faire. Oui, c'est faisable. Bon, le fait déjà que on le fasse, on ouvre le triathlon en relais, ça permet à certaines personnes de faire certains sports et de donner le relais aux copains. Donc on a des relais mixtes qui viennent avec une personne en situation de handicap et puis les copains qui ne le sont pas. Et donc, ils se partagent les sports, chacun en fonction de sa capacité et sa meilleure performance. Et puis, on en a aussi qui font les trois, hein, aucun problème. Ils sont même habitués à le faire. Vous savez qu'on a en France des champions paralympiques dans cette discipline qui sont impressionnants. Donc, voilà, la personne n'a pas besoin de grand-chose de plus pour gérer ça. On doit tout simplement nous faire attention à lui amener des fois une prothèse ou des choses comme ça à la sortie de l'eau pour qu'il puisse s'équiper tout de suite et rejoindre le parc de transition. Mais pas grand-chose de plus. Ces personnes-là sont super autonomes, super débrouillardes. Elles sont habituées à ça. Et elles sont... c'est assez impressionnant parce qu'elles sont très performantes sur l'effort physique. Mmh. Et c'est pas mal parce qu'on veut pas séparer ces courses, bien entendu. Hein. On veut pas faire des catégories et séparer les courses. Donc, elles sont dans le peloton avec tout le monde, ces personnes en situation de handicap. Et elles nous demandent de l'aide ou pas en fonction de leur type de handicap. Mais souvent, elles viennent avec les copains qui sont dans des clubs avec eux en triathlon valide. Et les mélanges se font très, très bien et sont très agréables pour tout.
Et puis, il y a aussi une autre particularité de votre triathlon, c'est que c'est un triathlon engagé hein, pour notamment le domaine durable et de l'environnement.
C'est indispensable maintenant, je crois que n'importe quelle société, n'importe quelle organisation, alors nous, on est organisateur d'événements, mais dans n'importe quelle industrie, on doit regarder attentivement ce qu'on fait. On doit apporter une autocritique à ce qu'on est habitué à faire depuis des années et puis tout simplement un regard neuf en disant est-ce que si je faisais autrement, j'apporterais le même service à mes pratiquants, j'aurais la même qualité d'organisation, mais peut-être que j'aurais moins d'impact sur mon environnement, tout simplement. Donc on cherche, on essaie de décrypter nos organisations, de regarder chaque point de l'organisation et de se poser ces questions-là. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on est habitué à faire ça, mais il n'y a pas une autre solution? Et donc, mais à la fois pour diminuer notre impact carbone sur les transports, tout simplement, même en communication, conseiller aux participants de venir en transport ou en vélo, c'est plus simple que de venir en voiture. Déjà, c'est plus simple pour le jour J. Et en plus, on participe aussi tous solidairement à la baisse de l'impact carbone. On essaie de réduire les déchets qui sont dans notre organisation, en logistique, hein, vraiment dans les coulisses, de réduire nos emballages, de demander à nos prestataires, à nos fournisseurs de nous fournir des choses avec beaucoup moins d'emballages ou des emballages qui sont beaucoup plus durables. Et puis, on demande aux sportifs aussi de faire attention. Quand ils emmènent leurs denrées sur le parc de transition. C'est sûr qu'on jette, on essaie de pas avoir trop d'emballages non plus, de pas les jeter n'importe où. Nous, on essaie de réduire le plastique à usage unique. On essaie dans nos ravitaillements, de donner le plus possible de denrées qui sont en vrac, qui sont pas emballées. On évite les emballages individuels. Voilà, on essaie de réfléchir à tout ça. Donc, c'est un éventail de plein de petites choses, des choses qui se voient, des choses qui ne se voient pas, qui sont en coulisses, sur lesquelles on essaie d'évoluer. Mais je crois que c'est notre mission et elle est la même pour tous, que l'on travaille dans une industrie de service, une industrie de production de biens ou qu'on soit organisateur d'événements. Et puis, du coup, on a envie que le même effort soit fait par les participants à ces événements-là. On ne le fait pas sans eux, on le fait avec eux, et eux le font avec nous, pour que ce soit le mieux possible. Donc, c'est une démarche de progression, on n'est pas parfait tout de suite, hein, on le sait bien. On change les choses au fur et à mesure quand on peut le faire. Et on essaie tout simplement d'être, comme tout le monde, un peu responsable.
Et puis, il y aura comme sur le Tour de France, un petit village d'exposants notamment.
Oui, on accueille tout le monde. Donc, on a l'obligation d'accueillir les participants pour qu'ils viennent retirer le dossard, qu'ils viennent prendre les derniers renseignements sur l'épreuve. Ils vont venir aussi la veille de l'épreuve, hein. Vous savez, la veille de chacune des épreuves, on vient déposer son vélo dans le parc fermé vélo, le parc de transition, on vient prendre son emplacement, on vient se familiariser avec la position qu'on va avoir le jour J, et on laisse son vélo pour que ce soit déjà prêt pour le lendemain matin. Et du coup, on les accueille dans un village avec nos partenaires. Nos partenaires sont là pour leur proposer, soit de découvrir leurs produits, parce que par exemple, notre partenaire Citre, Garmin, fait sans aucune commune mesure les montres les plus populaires du marché, les montres GPS, les accessoires GPS, parce qu'il n'y a pas que des montres, hein, il y a aussi des accessoires pour les vélos, pour les voitures, hyper performants. Et c'est l'occasion pour Garmin, par exemple, de montrer ses nouveaux produits, bien sûr, mais aussi de faire du service après-vente sur les produits. C'est-à-dire qu'on a acheté sa montre il y a 2 mois, on n'utilise pas toutes les fonctions, ou alors on a une incompréhension sur l'utilisation d'une fonction de la montre. Et on va croiser les personnes de Garmin qui sont affûtées là-dessus. On va leur demander le dernier conseil. Et puis, du coup, l'utilisation sera optimum pour la montre. Et puis, on a d'autres partenaires. Donc, le Vieux Campeur, c'est pareil. Ils viennent faire découvrir leurs produits, leurs boutiques qui sont au centre de Paris. On a des partenaires comme la SIAP qui gère la qualité de l'eau sur l'assainissement francilien. Donc, ils sont très, très concernés par ces épreuves où on va nager dans l'eau du canal, demain dans l'eau de la Seine. Et donc, ils partagent avec nous ces objectifs, avec la ville de Paris, avec la préfecture, avec l'État, d'assainir nos cours d'eau. Donc, c'est une discussion qui est intéressante à avoir avec eux. Donc là, les participants vont les voir. Et il y a des discussions intéressantes sur ce qui est en train de se mettre en place, en fait. L'assainissement de l'eau, c'est quoi? Ça représente quel défi? Qu'est-ce que vous devez changer pour que l'eau soit parfaite dans un an? Qu'est-ce que vous avez changé les 10 dernières années pour qu'elle soit nettement plus propre? Enfin, c'est des discussions qui sont super intéressantes. Voilà. Et puis ensuite, on a des partenaires comme Hyundai qui vient faire découvrir ses véhicules électriques. Voilà, on parlait de responsabilité. On sait qu'on a une grosse évolution sur le transport à tout. Hein. C'est l'occasion d'aller s'approcher effectivement de l'industrie Hyundai et de voir, de découvrir les produits, les nouveaux véhicules. Voilà, pour donc ce village, il vient animer une après-midi où on est en échange avec les participants. Beaucoup de participants débutent sur triathlon, donc ils viennent chercher de l'info, ils ont beaucoup de questions, donc ils vont pouvoir nous poser des questions, nous, à un membre de l'organisation, ils vont pouvoir venir voir nos partenaires pour se renseigner sur tout ce qu'ils peuvent leur proposer. Et puis c'est le premier moment de convivialité entre les participants, parce que quand on est devant son ordinateur et qu'on s'inscrit, on est tout seul. Un certain nombre s'entraînent tout seul, donc là c'est l'occasion de commencer à dire il y a du monde qui sera là demain, l'ambiance est plutôt festive et plutôt bonne entre les participants. Et voilà, on croise tous ceux qu'on va croiser demain dans cette première course, cette première compétition.
Oui, parce que ça, vous y tenez, hein, cet esprit de convivialité, hein, le sport dans la bonne humeur, hein, c'est indispensable.
C'est ce que viennent chercher les participants.
Ben oui,
on s'inscrit à un événement pour ça, en fait.
Bien
si
sûr.
On veut juste faire du sport, on peut le faire tout seul dans son coin, on peut parler à personne de la semaine et on peut le faire dans son coin. Mais il manque l'aspect social, il manque des fois la comparaison sportive aussi avec d'autres. Quand on cherche la performance, la comparaison est importante. Et puis l'aspect convivial, il est hyper présent sur ce type d'événement. On ne conçoit pas, la plupart ne conçoit pas de courir un marathon, que de courir une cyclo-sportive ou courir un triathlon sans la bonne humeur autour, dans le peloton. C'est très très convivial et très détendu, donc. Et c'est important, et c'est ça qu'on vient chercher. On vient participer à un événement grand public, ça veut dire qu'il y a du monde, hein. Il y a un vrai peloton de participants, c'est pour venir chercher ça, cette ambiance. Parce qu'à un moment de la course, on va soutenir quelqu'un qui sera un peu moins bien, parce qu'on va venir courir à trois, et que courir à trois, c'est bien plus agréable que courir tout seul. Et même si on vient tout seul, oui, on va croiser du monde, et tout le monde se tutoie. La discussion vient très vite entre les pratiquants. Enfin, on est vraiment que sur un... On a l'impression que les gens se connaissent quand ils se croisent sur le village. On a l'impression que les gens se sont déjà vus à l'entraînement quand ils se croisent sur la course. C'est ça qu'on vient chercher sur un événement.
Bien sûr.
C'est ça qu'on veut qu'ils vivent. Ouais. C'est pour ça que l'organisation, elle doit tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien et pour qu'ils puissent vivre cette expérience. Et puis on doit s'effacer, on doit les laisser vivre ces bons moments, tout simplement.
Oui, on va rappeler, hein, ça sera la 23e édition. Est-ce qu'il y aura des parrains sportifs de renom?
C'est un peu compliqué pour certains au niveau de l'emploi du temps, donc on a quelques personnes qui souhaitent venir, mais ils sont pas encore certains. Donc voilà, c'est un peu tôt pour moi pour annoncer des noms. On le saura là dans la dernière semaine. Mais voilà, on a demandé à quelques sportifs qui sont dans la team Garmin et d'autres sportifs qui accompagnent aussi la fédération et la Ligue de France de triathlon de nous rejoindre pour tout simplement être, comme vous dites, les parrains. Mais j'ai pas de nom avec certitude aujourd'hui. Voilà.
Oui. Parrain et puis marraine, hein, naturellement.
Oui,
aussi.
Oui, bien sûr. Et le planning triathlon est un peu dense en ce moment, puisque c'est la pleine saison. Donc voilà, on a quelques athlètes de haut niveau en triathlon. On aimerait bien qu'ils viennent nous donner un clin d'œil, mais on ne sait pas encore s'ils pourront être disponibles. Et puis même
Oui, sur les autres sports aussi, par exemple.
D'autres sports aussi. Oui, ouais, d'autres sports. Donc on va voir. Voilà, on travaille tout ça avec nos partenaires pour qu'on puisse avoir quelques sportifs de renom qui viennent applaudir les autres.
Et puis médiatiquement, il y a beaucoup de demandes pour aller suivre cette épreuve. Les gros médias se bousculent.
Il y a du monde qui vient, oui, parce que c'est une épreuve importante.
Bien sûr.
Sur la presse sportive, d'abord, la presse spécialisée qui va suivre l'épreuve avec attention. Et puis les médias, simplement comme vous, qui couvrent l'actualité régionale, l'actualité francilienne dans son ensemble, parisienne et francilienne.
Bien sûr.
pour qui c'est un événement important. Donc voilà, il y aura effectivement dans pas mal de médias ce clin d'œil sur un dernier week-end de juin, là, sur le triathlon de Paris. Oui, c'est...
Oui, puis nos confrères aussi des autres gros médias, on peut citer Radio France et RMC, entre autres. Voilà.
Et on est en partenariat, nous, avec Le Parisien, RTL2 et BFM.
Ah bah ça va bien, donc, d'accord.
Voilà, ça nous permet d'avoir à la fois une couverture auprès d'eux, et puis un traitement éditorial aussi par le reste des médias.
Bien sûr. Est-ce que les concurrents et concurrentes repartiront avec des petits cadeaux? Parce que je sais que parfois, c'est important.
Oui, mais le...
Un petit t-shirt, par exemple, de l'épreuve, voilà.
Voilà, tout à fait. Ils auront leur cadeau de finisher, en fait, quand on a le finisher d'une épreuve.
Leur diplôme, par exemple.
Il y a le diplôme, il y a la médaille, il y a des choses comme ça qui sont un peu institutionnalisées, pour lesquelles... Les organisateurs quand même se posent la question, est-ce que c'est bien durable d'offrir des choses qui sont comme ça, fabriquées pour l'instant en Asie, hein, pour beaucoup. Donc on essaie d'une part de relocaliser ces productions. Là je parle pour tous les organisateurs, hein. Tous les organisateurs se posent cette question, de dire on va essayer de refabriquer en France certains de ces objets, ce sera beaucoup plus durable et beaucoup moins impactant. Et puis... Pour le participant, nous, ce qu'on veut lui faire vivre, et il faut qu'il comprenne, c'est qu'on veut lui faire vivre une expérience d'événement. C'est ça le cœur. Mmh. La personne ne doit pas venir uniquement pour l'objet récompense à la fin de la course. Sinon, il n'a pas compris à quoi ressemblait un événement. Mais c'est un plus. Donc voilà, nous, on continue à offrir des médailles. Il va avoir son t-shirt finisher avec lequel il pourra s'entraîner ensuite. Il sera très, très fier. Mais on veut pas qu'il y ait que ça, effectivement, dans la tête du coureur. On veut que dans la tête du coureur, il y ait surtout... l'expérience qu'il va vivre, ce premier triathlon, pour les personnes qui débutent, hein, qui sont nombreuses, ou une belle compétition entre amis et entre collègues ou en famille, et c'est bien ça l'essentiel. Voilà.
Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il reste maintenant, Thomas, comme ça, là, 15 jours avant, à peaufiner les petits détails encore sur lesquels on est en train de travailler?
Nous, on passe beaucoup de temps sur la sécurité des parcours, donc... Ouais. C'est important de continuer. Et là, on a nos dernières réunions avec la préfecture, avec la ville là-dessus, sur les derniers ajustements, puisque autour de nous, le jour du triathlon, il va y avoir beaucoup d'événements. Donc, il y a des brocantes dans Paris, il y a des marchés, qui ont telle ou telle activité. Donc, voilà, au dernier moment, on a encore des ajustements sur des cohabitations entre deux événements ou deux activités différentes dans les rues parisiennes. Donc ça nous prend un petit peu de temps et c'est aussi des fois des surprises de dernière minute qui sont à régler. Et puis après, c'est le site. Nous, vis-à-vis des participants, on va commencer à se focaliser sur les horaires de convocation, n'oubliez pas vos petits papiers administratifs comme les certificats médicaux, etc. Parce que certains n'ont pas beaucoup lu les informations qu'on leur avait données jusque-là. Ils vont commencer à lire les informations quelques jours avant seulement. Donc, vis-à-vis d'eux, on commence à avoir cette attention sur les choses à ne pas oublier. Et puis, les conseils aussi, les conseils de dernière minute. Puisqu'on, je vous le disais, on a pas mal de débutants. Donc, c'est important de leur donner des conseils sur la façon dont ils vont s'équiper, la façon dont on va gérer le parc de transition, les choses à ne pas oublier, bien sûr, les erreurs qui seraient fâcheuses. On n'oublie pas son casque le matin, voilà, par exemple, sinon, on ne pourra pas participer à l'épreuve vélo. Donc, c'est des petites choses, mais il faut y penser. Donc, l'idéal, c'est se faire sa petite liste. Et comme ça, on vient au village, on prend tous les derniers renseignements, on se fait sa petite liste si on n'est pas sûr de soi. Et le matin, comme ça, on n'oublie rien, on coche les cases et on part avec tout le matériel. Voilà, c'est important pour le débutant. Et le dernier point qu'on réglera, en tout cas le dernier point d'attention qu'on aura, ce sera sur la météo. Voilà, en fonction de la météo, on donnera aussi les derniers conseils qui sont adaptés à la météo qu'on va rencontrer. C'est évident que la météo a un impact important sur la journée qu'on va passer tous ensemble sur ce week-end de fin juin. Et si la météo est belle et chaude, faut faire attention, faut s'hydrater, faut prendre la bonne tenue. Si au contraire elle est un peu humide, on va faire plus attention, notamment sur le vélo. Donc nous, on va aussi être plus attentif à ce qui se passe sur ce parcours vélo. Et, vous voyez, c'est des choses comme ça sur lesquelles on échangera avec les participants sur les derniers jours. Quand on sera sur les derniers ajustements, les dernières questions. Et nous, on écoute aussi les participants. Donc là, on a par mail, par téléphone, on a contact avec beaucoup d'entre eux. Donc si on s'aperçoit qu'il y a un point qu'ils comprennent un peu moins bien, ça ne nous empêche pas de rajouter une page web avec cette info un peu plus précise. Voilà. C'est les derniers échanges.
D'accord. Très bien. Bah, écoutez, merci. Merci pour votre participation à cette émission un petit peu particulière aujourd'hui parce qu'on l'a fait par téléphone, c'est pas grave. Et puis nous, de toute façon, on communiquera, on donnera le résultat de ces épreuves donc au lendemain des 24 et 25 juin. Voilà.
Très bien. Merci à vous, en tout cas.
Merci en tout cas. Ça a été un plaisir. Bon triathlon. Puis à très bientôt, Thomas. Merci en tout cas.
Bientôt,
bonjour à toute l'équipe d'ASO qu'on rencontre parfois sur les routes du Tour de France. Voilà. Merci en tout cas.
Merci,
allez,
au revoir.
On poursuit avec Diane Tell, Si j'étais un homme. Et ensuite, ben, ça sera le foot, le tennis et notamment le coup de cœur, coup de gueule de notre ami Stéphane Denclos.
Chacun pour soi.
RIFAN.
Voilà, cette émission, bah, vous pourrez naturellement très rapidement la réécouter en podcast. Je salue mes amis Abou et Eladji. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir.
Ça
bonsoir,
va Philippe. Dans ça quelle va. Forme êtes-vous?
Je suis cassé, j'ai dormi ouais. Très peu.
Ouais, on très en reparlera un petit peu. Mais vous avez eu le temps quand peu. Même de suivre la finale de Ligue des
oui,
Champions.
Hein.
De vous
loin,
avez eu le
de
temps
loin.
De suivre les finales de Roland-Garros. Donc, impeccable. Voilà. Allez, on a notre ami aussi Stéphane Desenclos au téléphone pour faire le coup de gueule, le coup de cœur, coup de gueule de cette semaine et pour prolonger l'émission de la semaine dernière. Stéphane, bonsoir.
Bonsoir à vous, bonsoir ouais. à tous.
Alors,
à toutes et à tous.
Le coup de cœur et coup de gueule de cette semaine.
Oui, bah, pour commencer, bien sûr, de toute façon, il y a un mot sur la finale de la Ligue des Champions,
oui, hein,
c'est l'événement de cette, de ce mois de juin et de cette fin de saison. On a pu voir deux concepts, je pense que vous allez en parler largement, deux concepts complètement différents du football, hein, avec finalement un match quand même beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît. Et pour finir, une nouvelle corde à l'arc de Pep Guardiola, car si l'Inter Milan a su faire ce qu'il fallait pour résister à City, City a su faire aussi ce qu'il fallait pour ne pas tomber dans les pièges tendus par une équipe très bien organisée, très tactique, mais manquant quand même de talent et commettant en tout cas à mon goût un peu trop de fautes. Pas question de dire ici quand même que le football de City est plus vertueux que celui de l'Inter, ni même plus efficace, avec un tout petit peu plus de réussite. Les Italiens faisaient quand même un exploit à Istanbul. En revanche, on peut s'interroger sur les limites du football à l'italienne. Sur les trois clubs italiens en finale, il y a eu trois défaites, la Fiorentina, la Roma et l'Inter, ce soir chaque fois inclinés face à West Ham, le FC Séville et donc Manchester City samedi. On attendait beaucoup aussi de cette finale pour en savoir plus sur la course au Ballon d'Or. En gagnant, City permet à Erling Haaland de rester, on pense qu'il reste dans la course au trophée, mais sincèrement, je doute que cela suffise pour devancer Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du Monde et meilleur joueur de la compétition. Pour espérer le trophée, il fallait, je pense, que le Norvégien fasse une grande finale, ce qui n'a pas été le cas. On connaît la date de la remise du trophée, d'ailleurs, ce sera le lundi 30 octobre, avec des votes clos au plus tard à la fin du mois, et une liste des finalistes qui va être annoncée au tout début du mois de septembre, mais franchement, on n'a pratiquement plus de doute sur le vainqueur. Selon moi, le podium, ça sera numéro 1 Messi, numéro 2 Haaland et numéro 3 Mbappé. Au passage, un petit message quand même au PSG pour souligner que Pep Guardiola est arrivé à City. Et oui, en 2016, c'est-à-dire il y a 7 ans. Pendant ce temps-là, on attend aujourd'hui le nom du 7e entraîneur du club de la capitale sous QSI. Je dis ça, je dis rien. D'ailleurs, à propos des entraîneurs, est-ce que vous savez que dans le meilleur des cas, 5 clubs de Ligue 1 seulement, Lens, Lille, Rennes, Clermont et Lorient, vont recommencer la saison prochaine avec les mêmes entraîneurs que ceux qui ont débuté celle qui vient de se terminer. C'est du jamais vu. Il y a eu 32 entraîneurs qui sont passés sur les bancs de Ligue 1 cette saison pour 20 clubs. Et je dis encore ça dans le meilleur des cas, hein, parce que rien ne dit aujourd'hui que Le Bris, Fonseca et même Hayes ne vont pas changer de banc pendant l'été. Ce qui est quand même incroyable, c'est que le marché des transferts est ouvert depuis le 10 juin, donc depuis samedi dernier, et que plusieurs clubs de Ligue 1 n'ont pas encore leur entraîneur, à commencer par les deux plus gros clubs français, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. La réussite, ou pas, sur la scène européenne, elle commence aussi un peu dès maintenant.
Oui. Merci.
Voilà.
Ok, bah, merci Stéphane. Juste
c'était
un. Oui. Juste un petit mot, non, mais parce que je m'attendais à ce que tu parles de la décision qui est tombée cet après-midi. Rodez, donc, qui reste donc en Ligue 2.
Enfin, ouais, j'en ai. Voilà,
et Bordeaux aussi. 3-0 sur tapis vert. Hein. Donc, voilà. Il
ouais,
n'y a pas de surprise.
Pour moi, c'est d'une banalité.
Oui.
Sans
y a pas de surprise.
C'était couru. Il n'y a que de ceux qui aiment bien parler, discuter. Ça montre que ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui arrive. En tout cas, on a beaucoup entendu Bordeaux et Annecy.
Très bien.
Voilà.
Merci Stéphane. On se retrouvera naturellement la
Bonne
semaine
soirée.
Prochaine. Il y a l'équipe de France hein, qui est en stage à Clairefontaine.
Ouais,
il y aura
exactement.
Des matchs internationaux. Et puis ensuite, on pourra parler de la campagne des transferts, hein, puisque je crois que ça va beaucoup bouger.
Tout à fait. Ah ouais, bah oui, c'est assez ouais. palpitant. En tout cas, on annonce beaucoup de noms. C'est vrai que Paris comme à Marseille.
Ouais.
Et on ne parle pas encore trop de Lyon. Monaco n'a pas non plus son entraîneur. Enfin, bon, c'est un peu. Malheureusement, on prend du retard, je pense, quand même, là, dans la course aux Coupes d'Europe. Déjà.
Très, Très bien. Merci Stéphane et bonne soirée.
Bonne soirée.
Et bonne semaine. Et sur le site donc, du quotidien du sport, donc, on retrouve naturellement très rapidement cette rubrique. Merci.
Au revoir.
Voilà, donc messieurs, donc cette finale de Ligue des Champions, Manchester City qui a battu l'Inter de Milan, j'allais dire enfin 1-0, hein, depuis donc 15 ans, Manchester City voulait y arriver, ils y sont arrivés, en plus cette année ils ont fait le triplé, hein, championnat, Coupe d'Angleterre, Coupe de la Ligue, Ligue des Champions, voilà.
Voilà, fallait bien que ça arrive un jour, oui. Manchester City depuis le temps qui cherchait à toucher le Graal. Mmh. Ils ont enfin réussi. Oui. Et voilà, sur l'ensemble de la saison, on peut dire que c'est mérité. On n'a pas eu une grande finale non plus.
C'est vrai qu'on s'ennuyait, sauf allez, les 20 dernières minutes.
Parce que le score était ouvert, etc. Et là, maintenant, fallait plus se découvrir. Oui. Mais voilà, l'Inter ont fait un bon match. En tout cas, sur le plan tactique, je pense que Inzaghi a réussi son plan tactique. C'est juste derrière, après, c'est les joueurs, c'est l'efficacité, c'est le talent, c'est tout ça qui parle.
C'est vrai que pour le football, on préfère quand même que ce soit Manchester City, tout comme on a préféré que ce soit Séville dans sa finale contre l'AS Roma. Hein.
Oui, bon, plus ou moins. Après, moi, franchement, pour moi, une finale, ça se gagne. Quoi qu'il arrive, tu as défendu pendant 80 minutes. Au bout de 10 minutes, tu réussis à marquer parce que l'équipe en face, elle n'est pas bonne. Pour moi, c'est voilà, maintenant, aujourd'hui, ce qui prime, c'est la tactique. C'est la tactique, voilà, on voit bien, c'est très resserré, il y a peu d'espace, il y a des plans anti-joueurs maintenant, etc. Voilà, c'est vraiment le plan tactique qui prime. Et là, c'était vraiment un jeu d'échecs. La finale, c'était vraiment un jeu d'échecs. Ouais. Ça s'est joué à peu de choses, à un détail, mais c'est un détail qui a plus penché pour Manchester City.
C'est la quatrième finale qui se termine consécutivement sur le score de 1-0. On va retrouver les années 70 ou 80 où on n'avait pas toujours des très belles finales et qui se terminaient souvent sur ces scores-là. Bon, les Italiens ont tout perdu, hein, ils ont perdu leurs trois finales parce que mercredi ils ont été aussi battus par West Ham avec la Fiorentina 2-1. Bon, là c'était un match qui pouvait aussi, bon voilà.
Bon, la première mi-temps était très médiocre, mais la deuxième est remontée.
La Fiorentina aurait très bien pu gagner. Hein.
Gagner, surtout que la Fiorentina en même pas une semaine, ils ont perdu deux finales. Parce qu'ils avaient joué la Coupe d'Italie contre l'Inter qu'ils avaient perdu. Et juste après, en menant au score. Et là, ils gagnaient 1-0, ils ont finalement perdu. Ils sont finalement inclinés 2-1 contre l'Inter de Milan. Et là, juste après, ils perdent 2-1 encore sur le même score contre West Ham.
Ouais. Abou, finale perdue par les Italiens. Donc deux victoires anglaises, une victoire espagnole. C'est les nations traditionnelles du foot qui s'imposent.
Ouais, après, je suis d'accord avec Ella tout à l'heure sur la victoire de Manchester City pour le football, le mieux c'est que City ait gagné. Non, je pense pas. Je pense que le mieux pour le football, c'est que celui qui est le mieux joué ce soir-là se soit imposé. Après, c'est une belle victoire pour Guardiola, tant mieux pour lui.
J'allais dire enfin, parce que bon, il y avait le Barça, puis on attendait un succès de ce type depuis qu'il est à Manchester City, quoi.
Ouais, tant mieux pour lui et ses joueurs. C'est après, comme il le disait, je crois que c'est toi qui disais, ou Stéphane, que le PSG a changé cette fois d'entraîneur depuis que Guardiola est à City. Voilà, la constance, elle finit par payer.
C'est la différence.
Donc, tant mieux, c'est plaisant pour lui, c'est bien pour les joueurs aussi, hein, qui remportent leur première Ligue des Champions, des joueurs comme Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Jack Grealish, Ruben Dias, John Stones.
Contre l'Inter, là, en finale, ça m'a fait repenser à la finale contre Chelsea. Et je me suis dit, attention, parce que je me suis dit, ils pouvaient tomber dans un faux rythme. Hein. Et ils sont tombés dans ce faux rythme-là. Ça a été compliqué. Ça a été à des petits détails, voilà. On voit bien Alexis Sanchez qui met une tête, qui rebondit sur la tête à Lukaku. À un autre moment, une tête, je crois, de Brozovic ou je ne sais plus de qui. Et que Lukaku, il la ressort sur la ligne.
Il y a quatre grosses occasions, l'Inter, sur la deuxième mi-temps. Hein.
Voilà, ça s'est joué vraiment à peu de détails, quoi.
Alors, vous savez qu'il y a quand même des Français qui ont gagné la Coupe d'Europe. Hein. Areola et Zuma, notamment, ont gagné avec West Ham. Puis on n'oubliera pas aussi l'ancien Lyonnais Paqueta, hein, qui a fait cette passe décisive.
C'est ça qu'il a gagné avec West Ham. Ouais. Et du côté de City, bon, il a choisi de la nationalité sportive espagnole, mais il y a quand même Emeric Laporte.
Oui.
Qui est français, qui l'a emporté aussi. Ouais. Et c'est tant mieux que les joueurs français la remportent. Maintenant, on aimerait bien que les joueurs français la remportent avec les clubs français.
Parce que je tiens. Bon, quand même, là, ça faisait à peu près, je crois, que 8 ans qu'il n'y avait pas eu de joueurs de nationalité française en finale de Ligue des Champions.
Ah oui.
Oui. Ouais. Ça faisait c'est la première fois depuis 8 ans. Ça fait 8 ans ou 9 ans à peu près.
Quand on a joué les finales, il y avait des Français dedans.
Il y avait des Français dedans. Oui, non, c'est ce que je dis. Je dis que depuis, ça fait un moment où il y a toujours un joueur de nationalité française qui se retrouve en finale de Ligue des Champions. Mais là, il n'y en avait aucun. Oui. Ni chez l'Inter Milan, ni chez Manchester City. Ouais. Voilà, et c'est une première depuis.
Oui, parce qu'ils étaient tous au Milan AC qui s'est fait éliminer. Donc,
c'est ça. La plupart, en tout cas, ils étaient tous là-bas, oui.
Bon, voilà.
Milan, on aurait pu en retrouver au Real Madrid aussi.
C'est bien. Bon, on aura donc une super coupe qui opposera donc Manchester City à Séville pour la rentrée donc et le début de la saison européenne. Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, c'est fait.
C'est officiel jusqu'à 2024.
Ouais.
Voilà. C'était logique. Je pense que voilà, c'était logique.
Ouais, c'est bien. Bah, moi, j'en ai parlé avec Michel Goldenstein, qui est mon prof, mon prof à l'école et qui à la haute autorité de la Fédération française de football.
Ah,
il disait que c'était déjà dans les tuyaux et que lui, justement, il est sur la liste de Philippe Diallo. Du coup, Philippe Diallo, c'est jusqu'en 2024.
Et peut-être qu'il va rester après, qui sait. On dit qu'il n'est pas très charismatique, mais finalement, ça va bien.
Peut-être, mais après, moi, j'espère que ça va changer quand même. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses quand même à revoir dans cette Fédération française de football-là. Et moi, à la place de Philippe Diallo, ce n'est pas contre lui. Hein, il était très bien à l'UNFP, par exemple. Mais moi, j'aurais mis un ancien joueur de football. J'aurais mis quelqu'un qui connaît vraiment le football. Après, pour faire ce poste-là, j'ai envie de vous dire, c'est plus politique qu'autre chose. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une réelle connaissance de football? Mais il faudrait quelqu'un qui fédère. Par exemple, moi, j'aurais bien vu Platini à ce poste-là. Après, est-ce que Platini le veut vraiment?
Il ne le veut pas.
Emmanuel Petit, bon, après, je sais que Emmanuel Petit aussi, ça fait débat. Mais moi, j'aurais mis un ancien joueur de l'équipe de France. Après, Philippe Diallo, on va voir ce qu'il va faire là jusqu'en 2024. Et de toute façon, la FFF, elle est un peu en autogestion quoi, depuis maintenant quelques années. Donc, à voir ce qui va changer réellement. Mais c'est une bonne chose pour lui. Et c'est un beau parcours, passer de l'UNFP à la tête de la FFF. C'est un très, très beau parcours et on est content pour lui.
Oui. Un petit mot sur Rodez, donc, qui gagne donc, son match sur tapis vert. C'est logique, c'est mérité. Donc, du coup, c'est Annecy qui va accompagner Nîmes, Niort et puis Dijon en national.
Bah, moi, je trouve ça quand même légèrement scandaleux. Parce que autant le supporter de Bordeaux, il n'avait pas à descendre sur le terrain et frapper Lucas Boades, autant le fait qu'un joueur, un supporter condamne deux équipes, moi je trouve ça lourd quand même, parce que ce supporter-là finalement, c'est comme l'expression qui dit un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse, bah là c'est exactement pareil. Il y en a un qui a foutu le bordel, c'est tous les autres qui prennent, Annecy ça va descendre. Annecy ça va descendre, c'est licenciement économique. Pour beaucoup de personnel de Annecy, c'est des familles qui vont être au chômage. Bordeaux va rester en Ligue 2, ça va peut-être dégringoler encore plus bas que la Ligue 2. Bordeaux, on sait que financièrement, c'était déjà pas stable l'an dernier et que la DNGC avait déjà annoncé leur descente en National et ils ont dû bricoler pour rester en Ligue 2. Donc le fait qu'un supporter condamne tout le monde, moi je trouve ça dur. Après, on sait qu'en France, on n'a pas le droit de reprendre un match sur le score sur lequel il s'est arrêté, donc on ne pouvait pas reprendre le match à la 30e minute.
Non, et puis ça, c'est 1-0 pour Rodez.
Non, t'es obligé de reprendre à 0-0. Nice. Tu peux reprendre le match.
Nice et Marseille.
Ça a repris à 0-0.
Ouais.
Nice menait, mais quand ils ont repris le match, ils ont repris à 0-0. Ouais, ouais. Ils ont repris à la 30e, mais à 0-0. En France, t'as pas le droit de reprendre.
Pour moi, si tu reprends à la 30e, tu dois reprendre au score. Non,
mais et en France, c'est ça qui est dommage. Moi, j'aurais fait rejouer ce match-là. Et après,
c'est
de toute façon, là, Bordeaux a annoncé qu'ils allaient faire, qu'ils saisissaient le CNOSF. On verra jusqu'où ça va. Mais il y a peu de chance. Ouais, je pense que ça va descendre. Et moins un point pour la saison prochaine. Tribune fermée. Moi, j'ai peur économiquement pour la suite à Bordeaux.
Voilà, moi, je partage entièrement l'avis de Abou, où je me dis, voilà, oui, on est responsable des supporters. C'est vrai que, voilà, peut-être qu'il y a eu un manque de sécurité, quelque chose comme ça. Mais si c'est ça, moi, je trouve que c'est assez facile. Demain, il y a mon club, je ne sais pas. Après, il y en a, il y en a qui sont un peu fous ou un peu truc. Mais même les gens qui ont cette image-là, il y a des gens qui peuvent avoir des idées malsaines et se dire, OK, bah, demain, moi, mon équipe, elle joue. Je vais me mettre dans les supporters de l'autre club et si ça va pas, je rentre sur le terrain, je mets un coup à quelqu'un et ils auront perdu et mon équipe de cœur aura gagné. Tu vois, je sais pas, mais voilà. Si ces règles-là, comme ça, faut faire attention, moi, je pense quand même, parce que voilà, un joueur pénalisé autant, je pense que moi, les peines que les supporters
doivent avoir en cas de ce genre d'incident. Moi, je pense que c'est ça qu'on doit essayer d'améliorer derrière pour essayer d'enlever. Voilà, on voit bien en Angleterre. Avant, il y avait des débordements, des petits trucs, etc. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de débordements. Okay, pourtant, il y a moins de sécurité. Il n'y a même pas de barrière qui sépare les trucs. On voit bien même les supporters. Ils sont limite sur le terrain déjà, mais ils respectent les règles parce que là-bas, c'est vraiment... derrière, il y a des pénalités beaucoup plus fortes qui ne vont pas spécialement qu'au club, mais qui vont aussi aux supporters. Et ça les dissuade de faire... ces choses-là. Parce que là, le supporter, il n'aura pas grand-chose. Il va être banni quoi un an, même pas. Et encore.
Ouais, peut-être interdit de stade, je sais pas.
Interdit de stade, et encore quelques mois, peut-être. Ça va être ça. Voilà. Après, même si tu es interdit de stade, il y a des fois, tu peux aller sous le nom de quelqu'un d'autre. C'est facile de voilà. Vous voyez.
Mais ce qui est encore plus scandaleux en France, c'est que quand tu es interdit de stade, tu es interdit de un stade. Tu es interdit du stade où tu as foutu la merde.
Bah, c'est
tout. Ouais, non, ça veut dire que les matchs à l'extérieur, tu n'es pas interdit de stade. Voilà. Tu n'as pas le droit de bannir à vie quelqu'un de stade, le maximum c'est 5 ans. Et moi je trouve qu'il y a une gestion en tout cas en France de ces événements-là, qui est, je suis d'accord avec Elhadj, qui est scandaleuse. Et même le fait que la LFP prenne une semaine pour donner une décision sur ce match. Et les mecs, je sais, c'est samedi, dimanche, on veut être en famille, mais on se réunit rapidement.
On ficelle ça rapidement,
c'est les vacances. Les joueurs, ils étaient dans l'attente.
Oui, ils étaient déjà en vacances dans leur esprit.
Là, les joueurs de Bordeaux, ils ont dû s'entraîner une semaine de plus. Là, tu leur annonces que c'est fini. Je trouve qu'il y a une mauvaise gestion sur comment on gère les incidents en France. Et il va falloir remédier à ça. Et c'est peut-être aussi un des boulots que Philippe Diallo aura de la FFF, avec une coordination à faire avec la LFP, Vincent Labrune, pour gérer au mieux ces événements-là.
Exactement. Allez. On passe au tennis. Je sais que vous n'avez pas raté une balle de Roland-Garros, ceci dans cette deuxième semaine, malgré tout ce qui s'est passé. Quinzaine historique, Djokovic qui barre dans 3-7-7-6, 6-3-7-5. C'est son troisième succès, c'est son 23e grand chelem. Donc il bat tous les records, il fait mieux que Nadal 22, mieux que Federer 20. Et Świątek, la polonaise, qui s'est imposée elle aussi pour la troisième fois chez les femmes, 6-2, 5-7, 6-4. Troisième succès, super belle finale face à la Tchèque Mukova. Bon, bah, Abou, toi qui es allé cette semaine sur Roland-Garros.
Ouais, bah après, moi je suis pas content. Enfin, je l'ai déjà dit dans cette émission, Djokovic, je supporte pas.
Oui.
Mais donc le fait qu'il ait 23 Grand Chelem, oui, c'est une bonne chose pour lui. Après, moi j'entends, depuis qu'il a son 23e là, Grand Chelem, j'entends des âneries sur les plateaux télé ou sur les réseaux sociaux. On parle du plus grand joueur de l'histoire du tennis. Je sais qu'on a la mémoire très sélective et que le fait que ça se soit passé maintenant, on a cette envie aussi de le glorifier. Mais il y a quand même eu des joueurs de foot, des joueurs de tennis, exceptionnels. Après, c'était une finale où Rude, c'est malheureux quoi. L'année dernière, tu viens, Nadal il t'en met 3. Cette année, tu viens, Djokovic t'en met 3. Le pauvre, l'année prochaine, je sais pas sur qui il va tomber, mais c'est compliqué pour lui. Mais c'est un très bon joueur de tennis battu et Djokovic, c'est indéniable. C'est un des meilleurs sur ce coup-là. Le seul qui pouvait l'arrêter, c'était Alcaraz. Et on l'a vu, le match face à Alcaraz,
il y a cette douleur
un partout. Puis tu as la blessure de Alcaraz qui fait que Djoko, c'est trop au-dessus. Et c'est vraiment... Djokovic, c'est fort, en fait. Et le fait que le toit aussi soit fermé hier à cause des intempéries, c'est quelque chose qui l'avantage, lui. Mais c'est tant mieux, c'est une bonne chose pour lui parce que c'est un très, très grand joueur de tennis. Moi, je ne trouve pas que c'est le plus grand, mais c'est un très, très grand joueur de tennis. Je trouve que même dans sa communication, il a fait des efforts pour être un peu plus proche des gens.
Oui, parce que l'homme n'est pas toujours sympa. Hein.
Oui, il est pas, c'est ça qui le rend désagréable. Mais même là, je trouve qu'il a fait des efforts quand même. On l'a vu dernièrement aller en terrasse sur Paris, manger avec des inconnus, etc. Il fait un peu d'efforts à ce niveau-là. On a vu Federer qui ne l'a toujours pas félicité.
Je crois qu'on l'a vu dans un match de foot aussi. On a dû voir au Parc des Prince pour le dernier match de Jean-Pierre.
Oui, on l'a vu.
Il y a même
aussi.
Que hier, on a vu les joueurs Mbappé, Ibrahimovic et puis les joueurs de l'équipe de France.
Roland-Garros
pour la finale.
Et après, comme Federer l'a toujours pas félicité pour son 23e Grand Chelem, on sait qu'il y a une rivalité entre deux et que Djokovic disait dans une interview il n'y a pas très longtemps, un ennemi sur le terrain ne peut pas être un ami dans la vraie vie. Donc avec Federer, c'est vrai qu'on n'a pas cette relation d'amitié, mais très très content pour lui et je pense que même qu'il va faire le grand chelem annuel. Je pense qu'il va prendre les 4 titres cette année.
Ah oui, et puis il peut aller jusqu'à 30 hein, parce
et c'est le seul qui a 3 grands chelems sur
après, hein.
sur chaque grand chelem, donc on est très content pour lui, tant mieux. Et par contre les Français voilà quoi.
Éliminé au bout de 2 tours hein, comme en 2021. On a pourtant, c'était la semaine dernière hein, fêté les 40 ans de la victoire de Yannick Noah, comme on avait fêté les 30 ans de la victoire de l'OM le 26 mai dernier. C'est une année de commémoration. Malheureusement, on ne va pas plus loin.
Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Bah, c'est malheureux. On a mon fils qui a fait un très bon premier match. Bah, après, il y a la blessure. Chez les femmes, Caroline Garcia, moi, je ne vous mens pas, je suis un peu déçu. Ouais, je la voyais aller au bout. T'as préféré Caroline Garcia.
Ah, oui.
Là, elle a préféré à Philippe, qui malheureusement ne va pas au bout. Après, la polonaise aussi, bah, c'est indéniable. Quoi.
Oui, c'est bien.
Ouais, elle est très au-dessus du lot. Et je pense que c'est un peu elle, la relève de Serena Williams. Sans qu'elle atteigne un jour le niveau des
Serena. La finale femme,
Oui, c'était
presque plus intéressante que les hommes où il y a eu moins d'opposition.
Et souvent, le tennis féminin, c'est agréable à regarder. Il n'y a pas si d'écart. Ouais. C'est pas comme le football masculin et le football féminin. Dans le tennis féminin, masculin, les deux, c'est agréable à regarder. Donc voilà, après, on espère que l'année prochaine, quand même, il y a un Français qui se montrera à la hauteur. C'est quand même notre grand chelem, quoi. C'est Roland Garros, c'est en France. C'est l'international, ça s'appelle l'international.
Les internationaux.
Et mec, bon, on espère que l'année prochaine, ça le fera. Mais en tout cas, on a vécu deux très belles semaines. Il faisait beau. Ouais. On a vu des très beaux joueurs de tennis. Oui, on a vu un joueur de tennis.
Tu veux pas monter un peu le level? Tu veux pas faire un peu de tennis?
Non.
C'est une quinzaine sans pouvoir.
Par contre, là, il a dit quelque chose de très intéressant. Oui. Quand il dit tu veux pas faire un peu de tennis, moi, je trouve que le tennis, c'est pas assez ouvert, en fait.
C'est pas assez ouvert.
Je suis désolé, le tennis, c'est enfermé à une classe sociale en France.
Exactement.
Les gars, si le tennis... T'as l'impression que c'est un truc inaccessible. Déjà par le prix, c'est cher de faire du tennis. Et deux, même par la rigueur et tout que le tennis demande. Si le tennis était aussi ouvert que le foot, je suis sûr qu'on aurait plein de champions.
J'en suis sûr aussi. J'ai beaucoup aimé le tennis quand j'étais petit, mais j'ai vu les inscriptions pour trucs, c'était hors de prix.
La tenue, les raquettes.
J'en ai fait un peu à l'école, mais dès que j'ai commencé à découvrir ce sport à l'école, j'étais ravi d'en faire. J'étais toujours super content d'aller faire du tennis quand j'allais en sport. Je disais à mon prof, pourtant je jouais au foot et j'aimais à fond le football. Et j'ai essayé aussi de faire d'autres sports, mais le tennis, c'est vraiment une chose qui m'a marqué. Je voulais vraiment développer quelque chose dedans, mais... C'est très très cher, quoi. C'est très très cher et c'est vraiment réservé à une classe sociale, comme tu le dis, Abou. C'est vraiment réservé à une classe sociale parce que même quand on voit sur des terrains de tennis, sur même amateur ou quoi, on voit les personnes qui s'entraînent là-bas.
Ouais, c'est...
On le voit, quoi.
Ouais, elle ressemble pas. Moi, je trouve que dans le tennis,
y a que Noah qui sort un petit peu de...
Et même Yannick Noah, j'ai envie de dire, oui. On prend souvent comme exemple Gaël Monfils. Enfin, moi, je trouve en tout cas que le tennis ne ressemble pas à la société qu'est la France. C'est un peu élitiste, on est entre nous. Le football ressemble à la société. Basket ressemble à la société. Même le hand ressemble à la société, finalement. Et il n'y a que dans ce tennis-là où il n'y a pas ça. Donc, il faudrait peut-être que la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castra, qu'elle prenne... des décisions et qu'elle fasse en sorte que ce sport soit accessible à tout le monde.
Voilà, l'initiation aux jeunes,
c'est
ça aussi, rentrer dans le tennis.
Et pas cher,
voilà.
Exactement. C'est ça, parce que c'est un très beau sport, c'est très agréable à regarder, et même à en faire, c'est comme elle a dit, c'est très sympa à faire du tennis. Donc ouvrez-le aux autres, quoi. C'est la France qui en sortira gagnante, de toute façon. On rafle tout partout, venons, on rafle tout au tennis aussi, mec.
Ouais. Allez, je vais juste donner des petits résultats de hand, de basket et de volley. Hein. Les hand, c'était les finales de Coupe de France à Bercy, tiens, c'était pas loin d'ici. Chez les hommes, c'est Nantes qui a battu Montpellier 39-33. Et chez les femmes, bah, y a un doublé de Metz qui a battu le Paris 92 37-24. En basket, on va quand même rappeler qu'un 0 pour Monaco devant Boulogne-Levallois, c'est la finale du championnat, en 5 matchs. Et tiens, ça t'intéressera, il y aura les matchs 3 et les matchs 4, peut-être, auront lieu à Roland-Garros, donc le 15 juin, cette semaine, et le samedi 17. Voilà.
Bah, ça va être sympa, ça. Ouais. Le Roland-Garros, très très beau, quand ils le mettent en format tennis, en format basket, c'est formidable. Franchement, c'est très très beau.
Voilà, et puis il y avait aussi un beau meeting à Charletti en athlétisme, hein, pas loin d'ici. 20 000 spectateurs à ce meeting, il y a eu deux records du monde quand même. La Kenyonne Kipchoge, sur le 5000 mètres, a couru en 14 minutes 5 secondes et 20 centièmes. Et puis l'Éthiopien Girma, sur 3000 cycles, qui a battu le record du monde en 7 minutes 52 secondes et 11 centièmes. Voilà, messieurs, après on va passer aux 24 heures du monde, on va appeler un confrère. Et puis, vous vouliez peut-être dire un petit merci, Eladji, et puis à bout sur ce magnifique week-end qu'on a passé concernant le Festival Art.
Oui, franchement, ouais. Moi, je voulais placer cet étroit. On a passé trois jours formidables avec la préparation vendredi.
Pas beaucoup dormi, vous avez eu le temps de tout faire en plus.
De regarder des matchs, d'être au concert en même temps, c'était fabuleux. Fou. Mais c'est un très, très beau festival. Et même toi, Philippe, hein, félicitations à toi qui a reçu des jeunes.
Oui,
t'as fait un peu d'initiation radio.
Voilà.
Bravo à Elhadj qui était le grand organisateur de cet événement-là, une réussite pleine hein, cet événement, qui a réuni toutes les classes de la société, qui a fait en sorte que les jeunes s'amusent, que les adultes s'amusent, que tout le monde prenne du bon temps. C'était vraiment génial en participation, on a appris énormément de choses, on s'est découvert les uns les autres d'une autre manière encore une fois, et c'était trois jours formidables, on espère que l'année prochaine ça reviendra encore.
Ça repartira l'année prochaine.
Et là, il sera un peu fatigué, mais c'est pas grave,
il y aura toute une équipe autour, ça va s'améliorer. Hein.
C'est ça. C'était Abou a tout décrit, hein. Franchement, c'était un super festival. Merci à vous d'avoir été là, et Abou qui a fait un super reportage qu'on espère voir bientôt. Jason au niveau
il
de la technique avec Loïc
des grands événements, il va aider tout ça, voilà.
Mais en tout cas, franchement, on a passé un très bon moment et on espère l'année prochaine que ça sera encore plus festif avec beaucoup plus de monde, qu'on arrivera à rassembler beaucoup plus de monde, et voilà, on a passé un super moment en tout cas.
C'était l'essentiel. Allez, on va finir sur un autre événement mythique, les 24 heures du Mans. On a notre confrère Stéphane Kahn qui est avec nous. Stéphane, bonsoir.
Oui, bonsoir Philippe.
Ça va Stéphane?
Bonsoir à tous les auditeurs.
Pleine forme. Quel week-end de sport
Pleine forme. Après les 24 heures comme on vient de vivre, faut récupérer un petit peu quand même, parce que c'était exceptionnel. Il y avait énormément de public, énormément de monde, et puis la course a été passionnante. Donc impossible de se reposer un petit peu. Il fallait vivre l'événement jusqu'au bout.
Oui, on va rappeler Ferrari donc qui renoue avec la victoire 58 ans après. Alors c'est Galado, Giovinazzi et Guidi qui se sont donc imposés sur Ferrari.
Exactement. Et c'est vrai qu'il y a quelques semaines, on misait pas forcément sur eux. Et puis finalement, il faut quand même le dire que la balance de performance a été un petit peu changée juste avant la course. Et ce qui a remis un petit peu Ferrari et puis les autres un peu dans la course, qui a resserré un peu les écarts entre tous les concurrents, et ce qui nous a valu une course passionnante. Et ça faisait très longtemps au Mans qu'on n'avait pas eu notamment 5 équipes d'usine qui ont pointé en tête à un moment. On n'a pas eu autant de rebondissements dans une course... de la sorte. Enfin voilà, on a vraiment vécu une édition. C'était le centenaire, c'était exceptionnel. Donc aussi bien pour le public dans les tribunes que sur la piste, c'était vraiment une édition et qu'il ne fallait pas louper.
Oui, c'est pour ça que toutes les écuries étaient venues, parce qu'on va rappeler deuxième les Toyota et troisième et quatrième des Cadillac.
Exactement.
Voilà, c'est pour ça que toutes aujourd'hui les écuries étaient venues, tous les constructeurs, parce que c'était le centenaire.
Alors, c'était le centenaire, mais il y a aussi, en fait, une nouvelle règle qui vient d'être appliquée, où ils ont créé une nouvelle catégorie, les LMDH, qui sont les Le Mans Daytona hybrides. Donc, ce sont des voitures qui peuvent concourir aussi bien aux 24 heures de Daytona qu'aux 24 heures du Mans. Et donc, c'est pour ça que ça a attiré notamment Cadillac et Porsche. Et les LMH, donc les Le Mans hybrides, donc Toyota et puis Ferrari, Peugeot, qui a bien tiré son épingle du jeu, parce qu'on leur donnait pas, on était un petit peu circonspect au début, on pensait qu'ils auraient peut-être du mal à tenir ou tout ça. Finalement, les deux voitures étaient en tête quand même le samedi soir. Et c'est vrai que finalement, les deux catégories ont bien cohabité. Ça nous a fait une superbe course. Et l'année prochaine, Alpine revient. Ils ont un beau projet. Il y a BMW qui doit revenir. On parle de Lamborghini, peut-être Acura. Donc, c'est pas 7 écuries d'usine qu'on verrait l'année prochaine, mais une dizaine. Ce qui ne s'est jamais vu aux 24 heures du Mans. Donc là, on sent qu'il y a un virage quand même dans les sports mécaniques modernes, avec peut-être de nouveau un attrait et un intérêt important pour l'endurance.
Eh bien, tant mieux, Stéphane. D'autant plus qu'en plus, ces 24 heures du Mans, ils sont tombés en même temps qu'une finale de Ligue des Champions de foot et que la victoire de Djokovic sur Roland Garros, quel week-end.
Oui, et puis que la victoire de La Rochelle en demi-finale.
Oui, en plus, c'est vrai. Oui, c'est vrai que tu es Rochelais aussi. Ouais.
Donc, il y avait énormément d'événements. Non, mais c'était incroyable. Là, de 325 000 personnes sur un événement sportif,
oui, en plus.
Partout dans le monde, avec des millions de spectateurs, avec le décalage horaire, tout le monde a regardé la course un petit peu partout sur la planète. C'est quand même un événement mécanique là qui fait vraiment plaisir parce qu'on a retrouvé la grande épopée du Mans. Alors le retour de Ferrari, c'est sûr, il y avait énormément d'Italiens ce week-end au Mans. Les Anglais sont revenus aussi. Il y avait beaucoup de spectateurs anglais. Enfin, on a retrouvé une effervescence qu'on n'avait pas connue depuis longtemps. Et moi, j'ai vécu quand même les années un peu de vache maigre de la CO avec des 24 heures du Mans dans les années fin 90, où justement le plateau était un peu moribond, il n'y avait pas beaucoup de spectateurs. Là, ça, moi, j'adore cette course-là. L'endurance est quand même la reine des courses. Faut quand même tenir 24 heures. Et ça fait vraiment plaisir à voir. C'est un spectacle. Malheureusement, c'était à guichet fermé cette année, donc beaucoup de spectateurs n'ont pas pu venir. Et ça, c'est dommage. Mais prenez vos places, réservez pour l'année prochaine, parce que ça va être la revanche. Ferrari revient et je pense que là il va y avoir une belle revanche dans l'air.
Et puis il y a tout un cérémonial sur ces 24 heures du Mans. Il y a des concerts, il y a des il y a de la musique, il y a tout un village autour.
C'est une fête populaire.
Oui.
Là, beaucoup de faut venir en famille. Il y avait Mika en concert, il y a eu des concerts toute la semaine, il y avait des feux d'artifice magnifiques. Comme c'était le centenaire, on a eu le droit aussi à des voitures qui avaient gagné les 24 heures avec des pilotes de renom. Jackie, qui était là, il y avait Derek Bell.
Oui, en plus.
Oui, il y avait.
Et puis je crois que c'est Lee Brown Jones qui a donné le départ.
Oui, il est venu pour donner le départ. Il y avait Tom Christensen, qui est Monsieur Le Mans, qui est venu dans l'Audi et qui, il était hyper abordable et tout. Non, c'était vraiment, c'était une belle fête et populaire. Et c'était une très belle course. Et Ferrari a gagné. Il y a eu du suspense jusqu'au bout parce qu'ils ont eu quelques petits problèmes de démarreur. Ou alors, est-ce qu'ils ont voulu nous le faire un petit peu à l'italienne, entre guillemets, et puis faire monter un peu la mayonnaise. En tous les cas, voilà, tous les ingrédients étaient là. Il nous promettait de la pluie, on a eu quelques averses qui ont effectivement rebattu les cartes, mais il a fait plutôt beau et très chaud le dimanche. Tout le monde a eu des coups de soleil. C'était vraiment un bel événement et ça fait plaisir de vivre ces moments-là. Ça fait partie des grands événements sportifs. C'est comme si c'était une finale de Coupe du Monde, en quelque sorte.
Et puis, bon, ils se sont consolés, les Italiens, avec Ferrari, de leurs trois finales perdues en foot, en Coupe d'Europe, cette fin de saison. Par contre...
Et en Formule 1 également. Ils ont tendance un petit peu à être... Ils traversent une passe difficile. Et bon, là, ça leur permet quand même de redorer un peu le blason du cheval cabré. Et dont tous les tifosi, bon, il y avait énormément d'Italiens, c'était tous hyper contents, hyper satisfaits, ils étaient en joie et l'hymne italien a bien retenti hier.
Alors, par contre, justement, pour en finir avec ce chapitre des sports mécaniques, même si ça a été un petit peu occulté par les 24 heures du Mans et puis par cette abondante actu sportive, il y avait un Grand Prix moto en Italie. C'est un Italien, justement, Bagnaia, qui a gagné. Zarco termine troisième. Bagnaia, qui est en tête avec 131 points devant Bezzecchi, 110. Et Zarco, lui, est cinquième au classement avec 88 points.
Ouais, mais là, juste une petite parenthèse. Quand on voit les Grands Prix moto, quand on voit les Ducati, comment elles évoluent, c'est vrai que donner une bonne moto à Zarco, il sera nouveau champion du monde. C'est la seule chose qu'on peut dire.
D'accord. Très bien. Stéphane, merci en tout cas.
Ouais, c'était un plaisir.
Voilà.
Et puis, j'encourage tout le monde. Il va y avoir le Mans Classique qui arrive dans 3 semaines. Pareil pour le centenaire, ça va être un gros événement. Donc, pour tous les amoureux de voitures anciennes, il va y avoir des plateaux magnifiques. Ça va être encore une fête. Là, il reste quelques places, mais il faut se dépêcher. Et puis, pour tous les autres, ceux qui ont loupé ou qui ont envie d'aller aux 24 heures du Mans, faites attention. Lorsque la billetterie va ouvrir, précipitez-vous parce que toutes les places ont été vendues en à peine un mois et demi. Et c'était à guichet fermé cette année. 325 000 personnes à guichet fermé. Voilà, ça représente quand même quelque chose.
Merci Stéphane, à très bientôt.
Merci. Bonne soirée. Au revoir.
Voilà donc pour les 24 heures du Mans. Alors tiens, on va finir, mais ça me fait penser à ça, le tennis. Il y a eu des billets vendus. Et puis il y avait des tribunes vides, c'est incroyable quand même.
Franchement, je pense que ça.
J'ai eu peur demain que ça fasse pareil.
mais c'est vrai que le tennis, et ça arrive souvent. Moi, à chaque fois que je veux prendre une place de tennis, il y a plus de place.
Alors, est-ce que c'est des entreprises qui les achètent et puis
je suis pas sûr.
Ça, ils n'en viennent pas.
Et là, sur, enfin, ouais, avant, ça s'expliquait bizarre par le fait qu'il y ait deux matchs en même temps. Du coup, les gens, ils ont la possibilité avec un billet d'être sur deux cours. Tu peux pas être sur deux cours en même temps physiquement. En tout cas, c'est pas encore possible. Donc, tu préférais un match. Mais c'est vrai que ça fait moche en fait à regarder. Et encore une fois, il y a beaucoup de choses à revoir dans le tennis. Hein. Et même, et pourtant, le prix des places au tennis, il est super cher. Ça veut dire que le gars qui achète pour pas aller regarder, c'est vraiment qu'il est blindé. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que ça fait moche à voir à la télé.
On a vu des tribunes vides dans les demi-finales femmes.
Ouais, c'est fou, quoi. Ouais. Ah ouais. Et je pense qu'il y a plein de jeunes, tu leur as proposé une place gratuite pour aller le voir. Ils auraient été super contents d'être en tribune et de regarder ce match-là, quitte à faire payer la place, mais un peu moins cher. Mm-hmm. Donc c'est dommage, mais on espère qu'il y aura du changement. Parce que c'est un très beau sport.
Absolument. Merci, messieurs. Merci. Reposez-vous bien, surtout. Hein.
Oui, profitez surtout, bien. On va bien se reposer. Merci, Philippe.
Et puis merci à tous. Merci à Jason, lui aussi. Hein. Chapeau.
Qui doit se reposer. Jay qui a fait un travail fort.
Et puis, on termine pour rester dans le sport avec Pierre Bachelet et Florence Artaud Flo. C'était la musique qu'elle avait faite après sa victoire, donc, dans la route du Rhum. Bonne soirée à toutes et à tous et rendez-vous la semaine prochaine. Salut.
C'est bien le nom que tu voulais, toi qui ressembles à la marée sur les cailloux de Saint-Malo. Flo, sous tes paupières ultramarines, parfois je lis ou je devine la solitude des bateaux.
C'est comme un rocher sur la lande. Tu ne bouges pas, tu te demandes où peuvent bien aller les rivières.
Chacun est fait comme il est, chacun prend feu comme il peut. Mais sous le ciel immense, tous les rochers du silence, tous les oiseaux en partance se retrouve parfois. Chacun est fait comme il est, chacun prend feu comme il peut. Chacun va son chemin jusqu'à l'endroit du destin où se retrouvent les mains. Il se quittait déjà.
Pierre, quand mon voilier s'envole sur l'eau, j'ai l'impression d'être un oiseau, mais j'ai le cœur sans illusion. Pierre, t'as le nom d'un caillou qui affleure, où pourrait naufrager le cœur, danger pour la navigation.
Même si la pluie te mouille parfois, les vagues tournent autour de toi, c'est toi qui les mènes en bateau.
Chacun est fait comme il est, chacun prend feu comme il peut. Mais sous le ciel immense, tous les rochers du silence, tous les oiseaux en partance se retrouve parfois. Chacun est fait comme il est, chacun prend feu comme il peut. Chacun va son chemin.
jusqu'à l'endroit du destin où se retrouvent les mains. Ils se quittaient déjà, chacun est fait comme il est, chacun prend feu comme il peut. Mais sous le ciel immense, tous les rochers du silence, tous les oiseaux en partance se retrouvent parfois. Chacun est fait comme il est, chacun prend feu comme il peut, chacun va son chemin.
Mon Paris est fait.